Radio Bark, donc notre troisième partie pour cette 18e avec notre invitée Hélène Sandranier. Alors, je le rappelle très succinctement, vous êtes chargée de l'autonomie, vice-présidente du conseil départemental, chargée du social, de l'autonomie, vous allez nous expliquer. On vient d'entendre l'exposé un petit peu de statistiques et d'un tableau brossé par Michel Santo sur le vieillissement. Alors, vous allez nous dire... d'après vous, ce qui est possible. Et ce qui n'est pas possible, parce qu'il faut aussi rappeler qu'en France, d'abord, tout n'est pas possible, et puis que le département a des compétences et qu'il ne peut pas mettre son nez partout non plus.
Tout à fait.
Alors, sur ce vieillissement et ces établissements EHPAD qui manqueraient chez nous.
Alors, Monsieur Santo a effectivement posé le cadre, hein. Et le cadre, et c'est le constat auquel au département nous avons été confrontés, c'est celui effectivement du vieillissement de la population audoise, voire d'un vieillissement supérieur à d'autres départements, qui s'explique notamment, vous l'avez dit, par un héliotropisme, hein, qui fait que les retraités aujourd'hui viennent s'installer sur nos côtes littorales. Et vous avez évoqué un aspect qui n'est pas négligeable dans la situation, qui fait que ces gens, quand ils viennent s'installer, ils quittent leur famille. Eux sont ici et les familles sont ailleurs.
Donc, ils se sont éloignés.
Ils se sont éloignés volontairement. Et cet éloignement va être dans les années suivantes, plus tard, certes, beaucoup plus tard, dans les 15 ans ou 20 ans après, va pouvoir devenir un problème. Donc, revenons à, vous disiez mission, pas mission. Oui, effectivement, la politique envers les personnes âgées dans le département est une compétence département. Alors...
Pouvez-vous nous expliquer le choix de ce mot autonomie?
Oui, mais bien sûr, j'allais y venir.
En général, on en parle en politique,
y venir parce que c'est notamment un lien avec ce qui nous a fait, si vous voulez, au département, mettre en œuvre un très gros, ce que je vais qualifier, un très gros plan d'action, hein, un très gros projet. Fin 2015 est sorti ce qu'on a appelé la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Cette loi, elle était porteuse d'un nombre d'axes importants autour de l'autonomie de la personne. Parce que quand on parle personne âgée, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intention des politiques publiques, de façon générale, c'est de maintenir les personnes le plus longtemps possible en santé et en autonomie. Et d'ailleurs, il y a un indicateur majeur qui porte un peu les effets de cette politique, c'est qu'aujourd'hui, on rentre en institution, EHPAD, beaucoup plus tard qu'il y a quelques années, puisqu'on y rentre à 85 ans. Le problème, c'est qu'on y rentre beaucoup plus dépendant. J'y reviendrai. Donc, la loi ASEV. La loi ASEV, elle a dit, il faut que les départements, qui sont porteurs d'une politique envers les personnes âgées, mettre en œuvre des politiques de prévention de l'autonomie. Voilà. La feuille de route. La première illustration, le premier axe, ça a été l'APA, l'allocation personnalisée autonomie. Cette APA, elle a fait l'objet, par cette loi, d'une revalorisation. Ce qu'on appelle les plans. C'est-à-dire que quand vous avez l'APA, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on vous fait un plan d'intervention d'une aide à domicile. Voilà. Les plans APA, et notamment ce qu'on appelle les plus chargés, c'est-à-dire les gens qui étaient aux limites des plans et qui avaient besoin d'autre aide, tous les plans ont été revalorisés. C'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre d'heures d'APA. Très concrètement, pour le département, je le dis, on n'y reviendra plus, c'est 1,5 million supplémentaires par an. Cette loi, elle portait autre chose en elle, c'est qu'elle augmentait les plans d'APA, c'est-à-dire on peut rester à la maison, et elle diminue le reste à charge. Parce que ça, c'est un autre problème dans la sollicitation de l'APA. C'est-à-dire, je vais devoir payer combien? Et combien va-t-il me rester à charge? C'est ça la question que se posent les gens. Se la pose un peu moins aujourd'hui parce que les restes à charge ont diminué. Il se la pose toujours et nous en avons conscience pour d'autres. Et l'action est loin d'être terminée dans ce domaine. Donc, premier axe majeur, l'APA. Revalorisation de l'APA. Pour pouvoir rester à la maison,
il faut une aide.
Il faut une aide. Et plus cette aide sera effectivement riche, hein, et plus on peut considérer que le maintien à domicile s'avérera efficace.
Et une aide très concrète, justement.
Ah, très concrète, hein. Je viens à la maison pour t'aider à manger, je viens à la maison pour t'aider à faire la toilette, je viens à la maison pour t'aider à faire les commissions. C'est ça, l'APA. C'est l'aide aux activités de la vie quotidienne. Nous l'avons revalorisée. Deuxième axe majeur, toujours dans cette loi AFSEV, la création de ce qu'on a appelé la conférence des financeurs de la prévention de l'autonomie. C'est-à-dire une instance chargée de réunir tous ceux qui déjà... ARS, CPAM, caisse de retraite, département, ANA, travailler à des actions de prévention de l'autonomie. On a mis tout le monde autour de la table, et pour vous donner quand même l'illustration de cette année, sur des actions et des programmes de prévention de l'autonomie, dans tout le département de l'Aude, 1 000 000 d'euros, qui viennent s'ajouter à l'existant, qui ne s'y substitue pas. Vous avez peut-être vu dernièrement, sur le journal, la page consacrée à moiseniorode.fr.
Oui, justement. On a fait un site. Qu'est-ce que c'est cette opération ?
Tout à fait.
Il y a eu un sort de supplément publicitaire dans la presse.
C'est intimement lié à la conférence des financeurs. Parce que la conférence des financeurs, elle a dit quoi ? Elle a dit, c'est bien joli de faire des programmes de prévention, mais si les gens ne sont pas au courant, effectivement. D'où l'idée d'un site... Ce site, il est consacré à la prévention de l'autonomie et il est surtout fait pour que, quand vous avez envie de vous inscrire dans un programme de prévention de l'autonomie, soit vous rentrez la thématique, soit vous rentrez où vous habitez et on vous dit où est le programme de prévention le plus proche de chez vous.
Donc c'est un site internet.
C'est un site internet que j'engage tous les Audois et Audoises à fréquenter parce qu'il est riche en conseils autour de la prévention de l'autonomie et que surtout, il leur permettra de trouver à proximité de chez eux l'action qui correspond à ce qu'ils ont envie de faire en termes de prévention.
Alors, moiseigneur.aude.fr.
Merci. Voilà. Et puis... C'est, effectivement, la question s'est posée de... les gens vieillissent, les Audois vieillissent, donc on fout le paquet sur l'APA, parce que c'est de ça dont il est question, on met le paquet sur la prévention de l'autonomie, et puis on réfléchit, troisième axe de notre projet, sur l'hébergement. Alors l'hébergement, on n'est pas parti à l'aveugle. On a fait une immense enquête... auprès des Audoises et des Audois, à travers le site internet du département. C'est une enquête qui a été menée par le CREAI-ORS, donc qui est un organisme tout à fait ce qu'il y a de plus sérieux, qui consistait à nous aider à poser un diagnostic sur, effectivement, où et comment vivaient ces Audoises et ces Audoises de plus de 60 ans, et surtout, ce dont ils avaient envie, pour les 10 ans, 15 ans à venir, en termes d'hébergement. Je ne vous apprendrai rien en disant que 80% des gens ont dit « on veut rester chez nous ».
Oui, ça c'est très massif comme
mais
majorité.
Mais c'est important à savoir quand même, parce que pour nous, ça oriente la politique par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut mettre le paquet sur le maintien à domicile et réserver l'hébergement au moment où la dépendance n'est plus gérable à la maison. Bref. Cette enquête, elle nous a dit ça. Elle nous a dit « on veut rester à la maison ». Elle nous a dit que un tiers des logements des Audoises et des Audois étaient des logements qui ne permettaient pas le maintien inadapté, qui ne permettaient pas le maintien à domicile, soit pour des raisons thermiques, soit pour des raisons de conception, enfin, des escaliers, des ceci, des cela. Et elle nous a dit également que 15% d'entre eux étaient prêts à aller... dans ce qu'on appelle des habitats collectifs avec service.
Donc, mais qui sont à construire, justement.
Tout à fait. Donc, les hypothèses que nous a proposées le CREAI, parmi les hypothèses que nous a proposées le CREAI, nous en avons retenu une qui proposait, effectivement, que nous augmentions progressivement, d'ici 2030, le nombre de places en hébergement EHPAD, mais surtout qui nous demandait, dans un premier temps, de porter le schéma d'hébergement sur l'offre d'hébergement collectif avec service.
C'est-à-dire permettre aux gens d'habiter et de continuer à habiter chez eux.
chez eux ou dans un autre chez eux.
Ou dans un autre chez
dans
eux.
Dans un autre chez mais eux, mais chez eux,
qui tout restera à fait. Un chez eux.
Qui restera un chez eux, mais qui leur offrira des services type restauration, animation, un lieu de vie collective qui contribuera à apporter une sécurité là où ils ne l'ont pas aujourd'hui, même si physiquement, ils conservent une autonomie. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ces lieux ne peuvent pas être construits n'importe où. Ces lieux, et nous l'avons mis parce que effectivement, nous venons de lancer là ce schéma avec un appel d'offres qui est un appel d'offres qui est en cours. Et dans les conditions que nous réclamons pour engager la puissance publique, parce que nous allons engager financièrement la puissance publique, hein, naturellement, pour engager la puissance publique, nous demandons que ces résidences soient dans des bourgs où les services, un minimum de services, puissent être apportés. Et notamment, le sujet ô combien sensible, des soins et des services médicaux.
On reviendra sur la désertification médicale. Mais donc, voilà, donc finalement, ça c'est important à rappeler, l'essentiel c'est de faire en sorte que les gens restent chez eux jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où ça n'est plus possible.
Jusqu'au moment où ce maintien n'est plus possible, parce que la maison, c'est l'identité. Voilà, c'est chez soi qu'on est voilà, heureux.
Et le rester chez eux, c'est en fait le contraire de l'EHPAD.
Oui. Enfin, le contraire. Enfin, je ne sais pas si on peut le poser comme tel, mais
en tout cas,
de toute façon,
c'est très différent de.
Vous êtes chez vous. Et nous, c'est très clair pour le département. L'objectif, c'est de permettre aux gens de rester chez eux dans des appartements. Aménager.
Oui, une remarque, oui, Michel.
Jean-Claude, j'allais presque dire que c'est du bon sens, parce que ça répond à deux, en fait, à deux.
Bah, psychologiquement, déjà.
À deux problèmes. Le premier problème, c'est que les gens, comme le dit si bien Hélène, elles veulent rester le plus longtemps possible chez eux, parce que c'est une question d'identité, tout simplement, de vitale, quoi. Et la deuxième raison, qui est une raison financière,
ça coûte
beaucoup moins cher.
Bien entendu.
Effectivement, que de s'occuper d'une personne âgée le plus longtemps possible chez elle, plutôt que de la traiter, si je puis dire, dans un établissement de type EHPAD, non, et qui en plus, bon, doit répondre à des besoins de plus en plus lourds, en fait, financièrement, en prenant en charge des personnes lourdement, je veux dire, handicapées au sens physique, en fait, et du point de vue de la santé. Les maisons de service, en fait, le privé aujourd'hui répond en fait à ce genre de pour des catégories de population qui ont des revenus effectivement très élevés. Mais ça ne concerne pas que, contrairement à ce que tu allais suggérer, que les bourgs en fait, que les territoires éloignés des villes. Moi, j'aimerais entendre un jour en fait, le maire de Narbonne, par exemple, mais peu importe sa casquette politique, là n'est pas la question. Parce que le problème se pose aussi dans les cœurs de ville, en fait, comme Narbonne.
Tout à fait.
Et que là, il y a des problèmes de politique à moyen et long terme, et donc en termes de programmation en coopération justement avec le département, pour faire en sorte que dans le cœur même de ces villes, où il y a une population âgée qui a migré de territoires périphériques vers le centre, qui un jour devra être traité, si je puis dire, par ce type d'équipement. Oui. Et aujourd'hui, je constate que c'est un sujet qui ne fait pas beaucoup, en fait, parler de lui, en tout cas dans les villes, en fait, que je viens de citer.
Oui, si vous me permettez.
Oui, alors,
parce qu'il y a quand même une dimension importante, c'est que nous avons fait ce schéma, mais ce schéma, il distingue deux types d'offres. Il faut le savoir. Une offre qui relève du champ médico-social défini par la loi. Ça veut dire quoi, très concrètement? Que sur ce champ-là, dans ces appartements-là, qu'on appelle aujourd'hui résidence autonomie, le département intervient et peut accorder l'aide sociale aux personnes qui sont dans ces appartements. Donc ça, c'est le champ de l'aide médico-sociale qui relève de la compétence du département. Là, on peut y aller. L'aide sociale, pour vous donner une idée quand même, sur le département, c'est 13 millions quand même. Hein. C'est 13 millions. Bon. Et puis, à côté de ce champ, il y a un autre champ qu'on appelle hors médico-social, où on peut avoir le même type de prestations, sauf que là, on est dans du privé, et que le département n'intervient pas pour aider les usagers à y aller, puisqu'on est dans du privé. D'accord ? Et nous avons construit un plan d'hébergement qui distingue ces deux types de résidences. Nous allons appuyer fortement financièrement, si vous en voulez les détails, je vous les donne, mais enfin, je peux vous faire un total, hein, pour nous, ça fait 3 millions, hein, à peu près, qui va aider fortement les résidences du champ médico-social, puisqu'on va aller sur l'aide sociale, et un autre plan qui va aller aider, de façon moindre, mais relativement encore conséquente, le champ privé. Donc, vous le voyez, nous ciblons...
Il faut bien faire la différence.
Il faut bien faire la différence, parce que l'investissement du département est important, mais aussi le besoin des usagers dans ce département est différent. Et que là, pour le coup, je m'excuse, mais je fais de la politique au sens noble, c'est-à-dire que moi, je suis porteuse de certaines valeurs, je suis socialiste, je n'en ai pas, je le revendique, et que pour moi, l'accessibilité à une résidence, quand on n'a pas les moyens d'y aller, est fondamental. Donc le choix a été fait de soutenir ce type de résidence autonomie du champ médico-social.
Alors oui, Hélène Sandronier, je voudrais quand même, pour terminer cette interview, que l'on revienne un petit peu sur la désertification médicale,
si
même si ça n'est pas véritablement la responsabilité du département. Vous vous sentez très concernée.
Je suis très concernée et je suis contente que vous nous disiez, que vous disiez ici à l'antenne quand même, que ce n'est pas de la responsabilité du département. Parce que moi, je vis mal... une musique que je peux comprendre parce que nous y tenons sur la rigueur de nos finances, la rigueur de gestion que l'on doit mettre à notre budget, et elle est légitime. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes responsables d'un argent public que nous devons distribuer avec le plus de transparence et d'efficacité possible. Toutefois, dans cette affaire des médecins et de la désertification médicale, je voudrais simplement rappeler qu'on vient nous chercher sur un champ qui n'est absolument pas de nos compétences et pour lequel pourtant nous intervenons. Je m'explique. Les médecins, c'est une mission régalienne. Répondre aux besoins de santé d'une population, c'est un droit pour tous, quel que soit l'endroit du territoire où on habite.
Qui dépend de l'État.
Dépend de l'État. Et ça, moi, je ne bougerai pas d'un iota dans cette perception. Pour moi, le droit à la santé, c'est comme le droit à l'éducation. C'est à l'État à s'en occuper.
Mais est-ce que l'État s'en occupe vraiment depuis des années et des années?
Non.
Parce que même le gouvernement socialiste que vous avez soutenu,
je ne cache rien. Il a fait ce que M. Macron vient de reprendre, ni plus ni moins, autour des maisons de santé et des mesures incitatives qu'il fallait certainement faire. Mais aujourd'hui, le constat qui est fait par tout le monde, c'est que les mesures incitatives ont montré leurs limites. Donc, moi, j'ai déjà dit ailleurs, dans d'autres lieux, que je pensais qu'il fallait qu'on aille vers d'autres mesures plus régulatrice.
Plus contraignante.
Et plus contraignante.
Disons les
et
choses.
Plus, et plus contraignante, certes. Certes.
Clairement, vous êtes de celles qui disent, moi je ne porte pas de jugement là-dessus, quoi, hein, c'est qu'on devrait obliger les étudiants à la sortie effectivement de leur faculté de médecine, les obliger à aller effectivement exercer pendant une période de temps déterminée dans des villages, en fait, ou dans des communes, des territoires où il n'y a pas de médecin.
C'est bien ça, Hélène
Sandrani. Écoutez, mais je vais développer, pour pas qu'on ait une vision quand même, je vais développer. Il n'y a pas que moi qui le dis, le département le dit, nous avons fait une motion. Moi, je dis quoi, hein? La médecine d'hier, c'est plus la médecine d'aujourd'hui. On est d'accord? Encore moins certainement celle de demain. Ok. Les modes d'exercice, on le voit, évoluent. Aujourd'hui, les médecins qui exercent sont saturés. On les met à genoux. On les met à genoux, les mecs. Ils ne peuvent plus prendre un seul patient supplémentaire.
Donc,
on avait proposé... j'en finis. J'ai eu l'occasion de le dire, il y a quelque temps, le groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée a proposé une mesure, vous allez voir quand même la régulation, qui consistait à dire comme on le fait pour les kinés, comme on le fait pour les infirmiers, comme on le fait pour les pharmaciens, écoutez, N'allez pas vous installer dans des zones où il n'y a pas besoin de médecins. Allez vous installer dans des zones où il y a besoin. Et si vous continuez à vous installer dans des zones où il n'y en a pas besoin, eh bien, vous serez déconventionné. Ce qu'on fait aux infirmières et ce qu'on fait aux pharmaciens.
Voilà.
Moi, je ne trouve pas ça terriblement anormal.
C'est de la logique pure, finalement. Même si ça décoiffe et ça défrise pas mal de gens, c'est de la logique pure.
Vous trouvez, ça ne défrise personne de savoir que quand on se trouve au fin fond des Corbières, qu'on a un petit ou une grand-mère ou un mari qui est en difficulté de santé, eh bien on se demande comment on va arriver à un médecin s'il a un problème.
Voilà. En tout cas, merci de cette prise de position très franche et je dirais presque véhémente. Merci donc Hélène Sandranier d'être venue nous exprimer aujourd'hui un certain nombre de données que vous défendez parce qu'elles sont de vos compétences au département et d'autres que vous, pour lesquelles vous vous battez même si elles ne sont pas directement...
Oui, mais fait quand même, il y a quand même derrière 600 000 euros pour les maisons de santé et 100 000 euros pour les internes d'un département qui n'en a pas la compétence.
Voilà, il fallait...
Elle fait
mais bien, mais parce qu'elle soutient, qu'elle peut pas laisser les gens se débrouiller tout seul.
Eh ben écoutez, moi je connais.
Voilà, il faut conclure. Voilà, il faut conclure. Merci donc prochaine invitée de ce Radio Barque. Alors deux invités la prochaine fois, David Granel et Marie-Hélène Régnier pour qui sont respectivement responsables Narbonnais et Audois du mouvement de la République en Marche. Voilà.
Les élections municipales approchent.
Oui, on peut le voir peut-être de cette façon-là. Merci en tout cas d'être resté à notre écoute et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Au revoir.